Alors, c'est une édition spéciale de Midi Info, 17 avril 2025. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Ici Ismaël Bonigaba, en compagnie de mon collègue Ferhat Saïd. Ferhat Saïd, bonjour. Bonjour, mon cher ami.
Bonjour Ismaël, bonjour. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale, comme tu l'as si bien souligné. Donc.
Voilà, dans quelques instants, nous recevrons un député, un invité qui répond au nom de Aurélien.
Aurélien Taché, c'est le député de la France Insoumise de la 10e circonscription de Val d'Oise en France.
Oui, voilà, donc la France Insoumise.
Ah oui, la France Insoumise, cette semaine, ils ont été à Montréal, au Québec, au Canada, justement, toute une délégation qui a accompagné Jean-Luc Mélenchon, le chef, le président de sa parti politique français de la gauche radicale. Donc, ils ont été ici pour des conférences. Ils ont animé hier une conférence conjointe avec Québec solidaire, notamment la cour porte-parole Ruba Gazal.
Ah, d'accord. Et voilà, donc, nous allons nous entretenir avec ce député européen. Mais en attendant son arrivée, nous allons diffuser notre rubrique sportive qui est donc le sport donne les ailes, animé par notre collègue François Roberge. Donc, à tout de suite.
Donne des ailes. Elle compétitionne, elle marque des points, elle se surpasse, elle gagne des championnats, mais surtout, elle nous inspire. À Radio Centre-Ville, le sport donne des ailes.
Et oui, le sport donne des ailes et il va encore beaucoup en donner le week-end prochain puisque c'est le retour de la Ligue des champions. On est rendu aux demi-finales. Samedi, ça se déroule du côté de Londres, Arsenal qui reçoit l'Olympique Lyonnais. Et dimanche, du côté de Barcelone, c'est Chelsea qui visite le club. Et pour analyser tout ça, notre spécialiste footballistique, la fameuse, la seule, l'unique Assil Toufali de l'Université Claude-Bernard Lyon 1 en duplex avec Lyon. Assil, rebonjour et merci d'être génial.
Bonjour François, merci beaucoup de belle introduction, merci franchement.
Voilà. Alors Assil, donc je le disais, samedi prochain, donc un gros match retour de la Ligue des champions, donc l'Arsenal qui reçoit l'OL à Londres. Et parlons-en de l'OL, puisque samedi dernier, en Arkema Première Ligue, un match OL-Paris-FC, marque finale 2-2. La milieu de terrain américano-néerlandaise Damaris Eguirola qui marque, mais qui sort blessé quelques minutes plus tard, soutenu par deux infirmiers, et qui malheureusement se rajoute à une liste d'absentes du côté de l'Olympique Lyonnais. Ça augure mal. D'après toi, est-ce que pour samedi prochain, Joe Montemuro commence à faire des cauchemars?
Je ne pense pas, franchement, parce que apparemment la blessure n'est pas tellement mauvaise. Je pense que c'était plutôt de la peur. Elle a eu peur de Maris, surtout que c'était vraiment sur son genou. Alors elle a eu peur. Mais ça, on avait l'impression que elle allait rater les deux matchs, mais au final, j'ai l'impression qu'elle sera présente au moins au match retour la semaine prochaine. Mais sinon, je pense que c'est Arsenal René Slinger de Arsenal qui est en train de faire des cauchemars parce que la liste des blessés de Arsenal ne cesse d'augmenter. Donc je pense que c'est plutôt le toubib d'Arsenal qui a beaucoup de taf à faire.
Voilà. Allez, parlons-en de ce match. Quelles sont tes attentes? J'ai l'impression que l'Olympique Lyonnais a quand même un avantage, mais est-ce qu'on pourrait avoir des surprises samedi prochain?
Bien sûr, bien sûr. Déjà, le match contre le Paris FC a montré que l'OL ne joue pas sa meilleure saison. On a l'impression que l'équipe a des fois des problèmes à pouvoir réagir à certaines tactiques et schémas tactiques. Donc, si jamais l'équipe adverse, emploie une certaine tactique, on a l'impression que l'OL se trouve incapable de faire face ou de répondre. Donc, le Paris FC a géré son match d'une façon excellente et un 2-2 très bien mérité. Donc, si jamais Arsenal vont être conscients tactiquement, elles vont pouvoir vraiment mettre déjà arrêter, par exemple, Je sais pas, peut-être Lindsay Horan d'avoir le ballon ou toucher le ballon ou même trouver une façon d'arrêter Mathieu Dumornay. Je pense que le match peut être un peu compliqué pour l'Olympique Lyonnais, même si les Lyonnaises ont un peu ce petit avantage d'un point de vue de joueuse ou de blessure.
Et dimanche, le fameux choc FC Barcelone-Chelsea FC, match d'aller. Quelles sont tes attentes vis-à-vis de ce match? C'est assez difficile, à mon avis, de prédire l'issue, je crois.
Ah oui, ça, c'est plus difficile. Donc, par exemple, si on veut dire... ça, c'est mon avis personnel, mais si on veut choisir le pourcentage pour OL Arsenal, je pourrais dire 65% pour l'OL. Mais pour Barcelone-Chelsea, moi, à mon avis, c'est impossible qu'on puisse donner un tel pronostic parce que, ok, le Barça a toujours cet avantage psychique ou même en termes de résultats, mais Chelsea font mal. Chelsea, cette année, elle sent très bien. Il y a juste une petite défaite qui a eu lieu, mais sinon, l'équipe joue bien. Sandy Patiment qui est excellente, la défense qui est bien, donc elle parle, son évocation a même parlé que peut-être Sam Kerr pourrait revenir, donc c'est très compliqué de donner une prédiction pour le match.
Voilà, réponse dimanche. Restons un peu en Angleterre, mais pas pour longtemps. Là, c'est une rumeur qui circule dans le mercato. L'attaquante d'Everton et internationale française, Kelly Gago, qui serait la priorité du PSG pour remplacer Marie-Antoinette Katoto, qui l'a annoncé va quitter le club à la fin de la saison. T'en penses quoi? Est-ce que Kelly Gago pourrait bien jouer au PSG?
Elle pourrait bien jouer. Déjà, la nouvelle est sortie que Katoto va quitter le club et elle est très proche de l'Olympique Lyonnais. Alors, ça va reprendre avec ce train habituel où les joueuses du Paris Saint-Germain quittent le club pour rejoindre l'OL. Après Gianni, après Sarah Dabrit, après Christian Adler. Là, c'est le tour d'une des meilleures attaquantes du monde. Donc, c'est une très mauvaise nouvelle pour le championnat français. L'OL recrute au PSG parce qu'il y a des excellentes joueuses et il veut en profiter. Et face à cela, même si moi j'adore le profil de Gago, mais je ne suis pas convaincue quelle est l'idéal remplaçante pour Katoto, parce que Katoto, on parle vraiment d'une des trois meilleures attaquantes au monde en ce moment, avec même si Sam Kerr est blessé, mais avec aussi l'attaquante du Barcelone, j'ai oublié son nom. Eva Payor.
Voilà.
Oui. Et alors quand une joueuse comme Marie-Antoinette Katoto quitte ton club, au moins, tu peux chercher Gago pour être la deuxième joueuse, la remplaçante, ou même avoir un rôle plutôt du côté pas axial. Mais qu'elle soit la seule priorité, ça c'est inquiétant pour le PSG. Ça va montrer que l'écart entre l'OL et les autres équipes en France ne cesse de grandir.
Voilà. Et comme si c'était pas assez, il y a Grace Guerrero aussi qui veut quitter le club. Certains la voyaient retrouver Jocelyn Brecher au London City Lioness. Mais qui pour remplacer Grace Guerrero? Alors, pas nécessairement un nom, mais quelles sont les qualités d'une bonne joueuse pour remplacer Grace Guerrero?
Bah, déjà, faut savoir que Guerrero, ce n'est pas juste son rôle sur le terrain. Ou bien avec le ballon, c'est surtout son rôle un peu de leader, celle qui peut gérer un peu le tempo, celle qui peut guider l'équipe quand l'équipe passe par des moments de doute pendant le match. Donc, c'est dur parce que ces joueuses, tu ne les crées pas. En fait, c'est une joueuse qui est née avec cette capacité à guider ou à avoir ce leadership, à être un peu la gérante du bateau, on va dire. Donc, ça va être compliqué si Gaïro finit vraiment par partir. Et il y a aussi des rumeurs comme quoi Sakina Karchaoui est ciblée par Chelsea et Barcelone. Donc imagine que d'un coup, pendant un été, tu perds Sakina Karchaoui, Grace Gaïro et Marie-Antoinette Katoto. Donc ça, c'est très compliqué pour le PSG.
Voilà.
Et pour une joueuse remplaçante de Gueiro, là, j'ai pas un nom, mais franchement, c'est très dur de trouver un nom parce que des fois, elle passe par des moments où elle est moins performante, mais elle reste une joueuse clé de l'équipe de France et du PSG.
Voilà. Et faut-il le souligner aussi, Charkaoui, qui a signé jusqu'en 2028, mais un contrat, ça peut se changer. Tout est possible. On a beaucoup parlé, Cécile, en terminant, du fameux record de Julien Lesommer, 200 caps à la tête des Bleus. Mais c'est tout de même les 200. On a peu parlé des 241 sélections de la capitaine des Pays-Bas, Sherida Spits, qui est milieu de terrain au Ajax Amsterdam, qui, elle, est la joueuse la plus capée d'Europe. Donc, 241 sélections, c'est pas rien. Qu'as-tu à dire de cette joueuse que je connais pas?
Si je ne dis pas de bêtises, j'ai même lu qu'elle est la joueuse la plus capée côté garçon et fille. Donc il n'y a aucune joueuse ou joueur en Europe qui a joué plus ou même d'un point de vue international. Moi j'ai grandi un peu avec cette génération de Jenny, Wendy, Sherida et tout. Bien sûr, j'ai pas vraiment regardé Sherida autant que les autres joueuses, du fait que c'est un championnat que je suivais pas énormément, c'est une équipe nationale que je suivais pas aussi, mais j'ai regardé beaucoup de reportages sur elle. Quand Daniel Van de Donk dit que c'est une de mes joueuses préférées ou c'est une joueuse qui m'a énormément appris, on voit qu'elle a vraiment sa place un peu dans le cœur du football néerlandais.
Voilà. En terminant et brièvement, match de la NWSL qui a retenu mon attention, le Racing, Louisville Racing contre Washington Spirit. 2-0 pour Washington Spirit. Et à tout hasard, Ashley Hatch, 4 matchs, 4 buts. Je reviens à ma question d'il y a 2 semaines parce que ça m'intrigue. Ashley Hatch, la nouvelle goleador américaine. Est-ce que c'est son année 2024? Parce que ça va bien, là. 4 matchs, 4 buts, c'est pas rien, là.
Ouais, je t'avais dit, c'était 3 matchs, 3 buts la dernière fois, et je t'avais dit, pour l'instant, elle est très positive. On sait qu'en NWSL, n'importe quelle joueuse peut vraiment jouer le match ou la saison de sa vie. Et je pense qu'elle est tentée par cela, qu'elle veut continuer de marquer. Donc peut-être dans sa tête maintenant, elle a cette philosophie, allez, je marque un but par match et au final, j'aurai, je sais pas, 28 buts en 28 matchs. Alors pour l'instant, ça a l'air très positif pour elle.
Voilà. Néanmoins, Washington Spirit qui est en 3e position. Bon, en fait, c'est pas dramatique et quand même dans le carré d'as, mais c'est toujours le Kansas City Current qui est en 2e. Donc, peut-être que ta prédiction va s'avérer aussi. Bref, à suivre. Asil, je te souhaite un bon week-end de Ligue des Champions. Ça va être assez intense et évidemment, on compte sur toi la semaine prochaine pour nous en faire l'analyse. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, François. Et bien sûr, on analysera les matchs la semaine prochaine.
Voilà. Merci beaucoup.
Le sport donne des ailes, elle compétitionne, elle marque des points, elle se surpasse, elle gagne des championnats, mais surtout, elle nous inspire. Radio Centre-Ville, le sport donne des ailes.
François Roberge, merci beaucoup pour le sport qui est branché essentiellement sur l'Europe, hein, les championnats d'Europe. Et maintenant, il y a le sport local aussi. Un événement très, très intéressant, très spectaculaire, si on peut dire, parce que ils l'ont fait alors que personne n'y croyait. Alors, il s'agit des cas des Canadiens, le Canadien de Montréal. Ils ont accédé aux séries. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle ici au Québec. Alors, ils l'ont fait donc. Le Canadien a atteint les séries éliminatoires qui vont donc avoir... Donc, pendant l'été, ça va chauffer. Lors des séries éliminatoires 2025, le Canadien a battu les Hurricanes de la Caroline 4-2 dans le 82e et dernier match de la saison. Oui, après un court répit, direction Washington pour y affronter les Capitals. Est-ce que quelqu'un a déjà annoncé une reprise de printemps 2010? Donc, il faudra peut-être être patient. Ça ne tardera pas, c'est assuré. Et Martin Saint-Louis n'est pas du tout du type à lancer des statistiques à tout vent. lorsqu'il s'appuie sur les chiffres, du moins publiquement, c'est parce qu'il souhaite rectifier une perception ou mettre l'accent sur un point très spécifique. Alors, il y a un audio que j'aimerais bien faire écouter nos auditeurs. Donc, c'est l'audio qui a été diffusé par la presse.
Deuxième et dernier match de la saison pour le Canadien qui a épuisé presque toute sa marge de manœuvre pour confirmer sa place en série. Un seul petit point contre les Hurricanes de la Caroline lui suffit pour avoir son billet. Le scénario est d'autant plus motivant pour le Canadien alors que les visiteurs ont donné congé à plusieurs de leurs joueurs réguliers. Tout comme lors du dernier match, le tricolore est le premier à marquer. Caden Gauley trouve l'ouverture à la droite de Piotr Kochetkov. Après une production d'un but et une passe à son premier match dans la Ligue nationale, Ivan Demidov tente de poursuivre sur sa lancée, mais il tire sur le poteau à la gauche de son compatriote. Le Russe se moque ensuite de Dominik Fantsor et cogne de nouveau à la porte de Kochetkov. Cette fois, le gardien repousse la menace du 93. Au tour de Caulfield de se présenter devant Kochetkov, qui fait de nouveau l'arrêt. Quand un gardien va de quelques sauvetages, c'est parfois de nature à nourrir le bon karma. C'est ce qui se produit au milieu du premier 20 lorsque le tir de Taylor Hall dévie sur la jambe de Gauley devant le filet. Sean Walker récolte une passe, tout comme Jesper Kotkaniemi qui pivote le premier trio des Canes en l'absence de Sébastien Aho. Les visiteurs bourdonnent en zone montréalaise au début du deuxième 20. Hall passe bien près de marquer son deuxième en ratant la partie supérieure. Samuel Montembeau sort ensuite la mitaine aux dépens de Bradley Nadeau. Juraj Slafkovský lobe la rondelle vers Nick Suzuki plus tard en deuxième période. Le capitaine repère Caulfield dont le tir effleure le gant de Kochetkov avant de toucher le poteau. Slafkovský est ensuite puni pour avoir fait trébucher Hall, mais ses coéquipiers parviendront à écouler l'infériorité numérique. Slafkovský s'assure de se faire pardonner pour sa punition. Son implication le long de la bande permet à Alexandre Carrier d'envoyer la rondelle vers Suzuki qui redonne l'advance à son équipe. Le joueur de centre récolte son 30e but et son 89e point de la saison. Le tricolore conclut la période sur une bonne note en creusant son avance. Gourlay inscrit son 2e but de la soirée avec la présence de Slafkovský devant Kochetkov. Caulfield récolte une passe pareillement pour Lane Hudson avec sa 60e de la saison. Le défenseur égale le record de la Ligue nationale détenu par Larry Murphy pour le plus de passes en une campagne par un défenseur recru. Ce jeune homme ne cesse de nous impressionner. Une avance de 3-1 peut toutefois être précaire pour le...
Ferhat, tu as suivi les matchs, hein? Le match d'hier.
J'ai suivi juste après le débat des chefs. Donc, les Canadiens ont gagné 4-2 face aux Hurricanes. Donc, c'est une victoire très, très importante. Ça a été le match le plus important de l'année. Donc, Montréal sera aux séries éliminatoires cette année, donc on va passer un bel été. Espérons que la Coupe va nous rendre visite après 15 ans de... plus de 15, 25 ans.
Voilà donc notre édition spéciale de ce Midi Info, chers auditeurs et auditrices. Comme promis au début de cette édition, nous avons un invité spécial que nous allons recevoir dans quelques instants. Nous recevons donc au studio un député français.
Exactement, c'est Aurélien Taché, donc c'est le député de la France Insoumise de la 10e circonscription du Val-d'Oise. Donc il a été ici avec la délégation Insoumise à Montréal pour un séjour. Donc monsieur le député, bonjour et bienvenue à Radio Centre-Ville.
Bonjour et merci de votre invitation.
Merci. Donc, cette semaine, on vous a vu, vous avez été avec le chef de votre parti, le président de LFI, Jean-Luc Mélenchon. Donc, vous avez visité un petit peu Montréal et tout, ça s'est bien passé pour l'instant?
Très bien passé. C'est vraiment un plaisir d'être à Montréal. On a été très bien reçus et voilà, avec le soleil en plus.
Okay, exactement. Donc, c'est le début du printemps ici. Donc, on a connu un hiver rude cette année.
Mais tu sais, quand on est à Montréal, pour les Français, c'est, on est chez les cousins. Je me rappelle, il a bien dit ça, monsieur Mélenchon, que vous accompagnez. J'ai eu l'opportunité de suivre, de visionner sa conférence, je pense, à l'université McGill. Et à ce moment-là, il a dit qu'il est embarqué sur une lutte contre l'obscurantisme, l'obscurantisme capitaliste, ce phénomène mondial qui va, ma foi, qui va anéantir la vie sur toute la Terre. Alors, j'aimerais aussi savoir si cette lutte contre l'obscurantisme est un credo qui se veut assimilable partout dans le monde.
On va revenir sur ça au cours de l'entrevue avant de commencer. Donc, on va parler justement du contexte de cette visite. Comment ça s'est passé? Comment est venue cette idée de venir à Montréal? J'ai entendu M. Mélenchon parler qu'il va partir aux États-Unis, mais il voulait d'abord passer par ici.
Tout à fait. Nous, l'idée, c'était de vraiment venir dire à nos amis québécois, nos cousins québécois, vous avez raison, hein, c'est comme ça que... on voit les choses, qu'il n'était pas seul face finalement aux menaces de Donald Trump. Donald Trump a quand même dit que le Canada devait devenir le 51e État des États-Unis d'Amérique. Hein, et nous avons trouvé, nous, Français, insoumis, qu'il y avait eu assez peu de réactions. Jean-Luc Mélenchon a fait remarquer de manière malicieuse, mais réelle, que le roi d'Angleterre, je crois que c'est le roi du Canada, n'a rien dit, par exemple, face à cette menace. Voilà. Que très peu de gens en Europe ont réagi. Même notre président de la République à nous, les Français, n'a pas dit grand-chose. Et ça nous est insupportable avec Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis. Nous considérons que le Québec est un pays frère, que véritablement, nous avons cette langue, le français, en commun. Moi, je travaille beaucoup sur la francophonie. Jean-Luc Mélenchon, on a parlé hier aussi au meeting de Québec solidaire, qui nous unit, qui est une langue qui charrie d'autres valeurs, justement, que celles que M. Trump met en avant. Vous avez parlé de lutte contre l'obscurantisme. Nous, on pense que le français peut être la langue de la science, des lumières, de la solidarité, de la paix. Et donc, pour toutes ces raisons-là, nous avons souhaité venir au Québec dire notre amitié et solidarité aux Québécois.
Justement, on a vu que vous partagez beaucoup de liens avec ce parti de la gauche radicale québécoise, Québec solidaire. Comment ça s'est passé cette rencontre hier avec Mme Rubagazal? Je le rappelle, c'est la marraine de notre radio, Radio Centre-Ville, donc depuis de longues années. Donc.
Très bien passé. Nous avons eu un échange riche avec l'ensemble des députés de Québec solidaire. Le meeting ensuite entre Rubagazal et Jean-Luc Mélenchon a été vraiment très porteur. Donc non, on a vu qu'on avait beaucoup de points de convergence. Vous savez, nous, on mène un combat, voilà, on considère que... tout ce qui renvoie à l'exclusion, tout ce qui renvoie finalement à l'obscurantisme dont a parlé Jean-Luc Mélenchon, tout ce qui renvoie à une société où on divise plutôt que de rassembler, ne nous convient pas. Et je crois qu'on a pu exprimer ça ensemble hier en disant, écoutez, très bien, il y a M. Trump, le bonhomme orange, elle l'appelle, je crois, Ruba, qui essaye de menacer les uns et les autres, qui veut diviser dans son propre pays, qui veut s'en prendre à vous, Québécois, qui veut aussi s'en prendre à nous, Européens. Eh bien, on ne le laissera pas faire. Nous, on va défendre une vision beaucoup plus ouverte, une vision beaucoup plus solidaire. Et M. Trump, Jean-Luc Mélenchon l'a dit, même si on doit vous aider à le combattre, avec des pierres et des bâtons, parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre, eh bien, on le fera.
Mais on a dit que les pierres et les bâtons vont être utilisés après la Troisième Guerre mondiale.
Ouais, c'est ça. Donc, vous m'avez devancé sur le sujet, le contexte actuel économique qui touche un peu le Canada, mais aussi l'Europe, vu qu'on a Donald Trump a essayé d'imposer des tarifs douaniers à plus de 100 pays dans le monde il y a une dizaine de jours de cela avant de reculer sur ce sujet-là. Donc, comment pensez-vous, d'après votre vision des choses, à la France insoumise, comment faire face aux réactions de Donald Trump?
Écoutez, il faut résister. Jean-Luc Mélenchon l'a dit hier.
Parce que c'est des réactions qu'on ne peut pas prévoir avec Donald Trump. Un jour, il y a des tarifs, le second jour, il y a eu un apport. Donc, comment faire face à cette incertitude économique?
Non, mais il faut qu'on se rapproche, nous, ceux qui, les peuples qui, sont, qui refusent cette logique. Nous, ce qu'on a dit hier, c'est ça. On a parlé du français parce que ça nous unit. On appelle, Jean-Luc Mélenchon parle de la langue commune. Mais la langue commune, elle doit être au service des causes communes et des biens communs. On peut imaginer une coopération plus importante entre nous et qui refuse le modèle de Trump. Le modèle de Trump, c'est la prédation. Vous avez bien vu comment il fait avec Poutine en Ukraine. Il dit finalement, on peut arrêter la guerre à condition que les Ukrainiens me donnent les minerais. Ils veulent refaire au Congo ce coup-là aussi. Ils veulent le faire un peu partout. Nous, on refuse ça. Nous, on dit non, on n'a pas besoin de se soumettre à M. Trump et de lui donner ce qu'on a dans notre sous-sol. Vous, les Canadiens, les Québécois, vous allez être... C'est pour ça qu'il s'intéresse à vous. Et il veut venir chercher ici ce qui peut arranger finalement les grandes entreprises états-uniennes. Donc, on peut refuser ce modèle-là. On peut dire un autre monde est possible. C'est le slogan de la France insoumise. À la prédation, on peut préférer la coopération. Et si on est de plus en plus de peuples à le dire et à mettre ça concrètement en musique, à donner des effets concrets, eh bien, vous verrez que finalement, les armes et les dollars de M. Trump peseront peu face à ceux qui prônent la paix, face à ceux qui prônent la solidarité. Parce que vous ne pouvez pas arrêter des gens qui finalement se disent que non, ils refusent un ordre injuste, que non, ils n'iront pas mourir dans des conflits idiots, que non, la vie ne se résume pas à ce que vous valez en dollars. Et nous, on est convaincus que la majorité des êtres humains pensent ça, ont intérêt à ça, et que si on arrive à le faire comprendre, eh bien, il ne leur restera plus grand-chose pour finalement essayer de nous impressionner.
Mais advenant que Donald Trump, un jour, décide vraiment d'envahir le Canada pour l'annexer, quelles options est-ce que vous pensez qu'il pourrait être utilisé?
Écoutez, là, je pense que si on en arrivait à des extrémités comme celle-ci, il faudrait évidemment être capable, je le souhaite en tout cas, que mon pays puisse être capable de répondre présent aux côtés des Canadiens sur un plan militaire. Moi, j'appartiens à un mouvement qui prône la sortie de l'OTAN. Nous n'attendons rien de la défense américaine. Nous sommes Français, nous pouvons finalement nous défendre, hein, nous avons la dissuasion nucléaire, nous avons un certain nombre de choses. Si nos amis canadiens, québécois en particulier, étaient dans cette situation-là, je pense que tout devrait être regardé. Je ne crois pas qu'on puisse, comme ça, vous abandonner. Ça n'est pas possible. Ça s'est déjà passé il y a bien longtemps, hein, je crois que c'est la devise du Québec, on se souvient. On ne refera pas la même chose. Et moi, je le dis d'autant plus que je m'appelle Taché, et qu'il paraît qu'il y avait des tachés dans cette affaire
oui.
À l'époque. On se souvient et on sait que vous vous souvenez et on ne vous oublie pas et on sera là, c'est ce qu'on est venu dire. On verra bien si M. Trump, comment il réagit, puisque vous savez que Jean-Luc Mélenchon va aller le voir à New York.
Espérons qu'il ne va pas se faire expulser, M. Mélenchon. Hein, parce que là, apparemment, aux États-Unis, les citoyens canadiens qui passent les frontières, ils sont contrôlés, sévèrement contrôlés depuis la venue de Donald Trump. Donc, il faut faire attention.
Okay.
Donc, je vais juste revenir. On parle du contexte économique difficile à cause de Donald Trump, mais aussi, il faut le dire, la gauche recule dans le monde et c'est l'extrême droite qui monte en flèche. Donc, Québec solidaire, les scores ne sont pas très bons ces temps-ci. Je peux relayer quelques sondages si vous voulez, mais ils sont pas trop bons. Dans quel conseil pouvez-vous donner, même si vous en France vous enregistrez beaucoup de bons résultats, hein, j'ai vu quelques chiffres, mais quel conseil pouvez-vous donner à un autre parti qui partage les mêmes valeurs que vous?
Bon, moi je serai modeste, hein, je suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire, même Jean-Luc Mélenchon l'a dit, on n'est pas là pour... Mais le conseil qu'on peut vous donner, peut-être qu'on peut donner à Québec solidaire, c'est restez vous-même. Jean-Luc Mélenchon l'a dit hier, quand on ne défend pas clairement ses idées ou qu'on les laisse à l'entrée du bureau de vote, il ne faut pas s'étonner de ne pas les retrouver dans les urnes. Le message est le suivant. Si, comme finalement beaucoup de médias dans le monde, beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dans les classes dirigeantes, dans ceux qui finalement ont un peu le pouvoir, si vous les écoutez et que vous essayez de leur plaire, vous êtes fichu. La seule manière de faire, c'est de leur dire non, nous, on ne transigera pas sur nos valeurs. Nous, on considère par exemple qu'en Palestine, il y a un génocide. Et si vous ne voulez pas l'entendre, c'est votre problème. Nous, on continuera de le dénoncer. On pense la même chose au Congo, plus grand pays francophone au monde. On pense que le capitalisme n'est pas une fin en soi. On pense que l'urgence n'est pas de réarmer, d'aller faire la guerre partout, mais de sauver la planète. Et quand vous êtes capable de dire ça clairement, vous allez voir, au début... Ça se traduit pas tout de suite, évidemment. Les gens qui pensent le contraire de tout ce que je viens de dire ont des moyens plus importants que nous. Mais vous éveillez des consciences. Le travail que vous faites avec votre radio, les messages qu'on essaie de passer, nous, les parlementaires de la France Insoumise, de Québec Solidaire, dans nos chaînes YouTube, partout où on peut, dans nos réseaux sociaux, ça fait écho. Il y a des gens qui l'entendent, tout ça, et qui se disent « Tiens, ceux-là, ils sont pas comme les autres. Ils pensent différemment. Ils sont têtus, ils sont courageux, et ils disent des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. » Alors, ça vient pas tout de suite. Mais au bout d'un moment... Jean-Luc Mélenchon, il a fait 3 élections présidentielles. La première fois, un peu plus de 10%. La deuxième fois, presque 20%. La dernière fois, plus de 22%. La prochaine fois, il sera président. Voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses.
D'accord. Donc, vous parlez... On a évoqué, justement, l'immigration. Donc, actuellement, oui. Dans le monde, si je peux résumer ça à une phrase, Ismaël peut me contredire si mm-hmm. c'est le cas. Donc, chaque parti politique qui veut gagner actuellement, il tire sur l'immigration.
Mm. Sauf nous. Et sauf Québec solidaire. Non, mais nous, on n'est pas d'accord avec ça. Moi, je ne peux pas laisser dire ça. Les Français, les Québécois, partout dans le monde, c'est des gens qui...
On a un débat de société actuellement au Québec à cause de l'immigration, à cause de justement de plus de 500 000 immigrants haïtiens qui vont se faire voir annuler leur permis de travail aux États-Unis.
Donc, c'est déjà fait. Il y a beaucoup de monde, des centaines d'Haïtiens qui frappent à la porte du Canada. Exactement. Mais ils se heurtent aussi à la rigidité du Québec et du Canada. Ils ne veulent pas les accueillir tous. Donc,
bon, vous me parlez d'Haïti. D'abord, j'ai un mot en tant que député français pour dire que nous, là-dedans, on n'a pas fait que des choses bien. On n'a pas eu que le beau rôle. Hein. Si Haïti est dans la situation qu'il est aussi aujourd'hui, c'est parce que la France lui a fait payer une dette pendant des décennies, alors que finalement, il n'aurait pas eu à la payer parce que on a été, à l'époque, vexé du fait que Toussaint Louverture mène la révolution. D'abord, je veux dire qu'en tant que député français, je regrette cela et j'ai ma collègue Gabrielle Catala qui a proposé une résolution à l'Assemblée nationale française pour qu'on revoie tout ça et qu'on dise aux Haïtiens, c'est plutôt nous qui vous devons quelque chose. D'abord, je veux le dire en tant que Français. Et ensuite, effectivement, oui, vous avez aujourd'hui des gens qui sont dans des pays où c'est extrêmement compliqué, donc qui essayent on ferait tous la même chose, de s'en sortir, de survivre, d'aller ailleurs pour venir, pour travailler, pour apporter à leur famille et autres. Et alors, on va arrêter ça comment? Qu'est-ce que c'est que ce monde qu'on nous propose? C'est absolument inarrêtable, ça. Les gens fuiront toujours, la guerre, la misère fuiront toujours, finalement, ce qui n'est pas acceptable pour aucun être humain. Donc, moi, je considère que taper sur l'immigration est une erreur. L'humanité est une et unique. Quand vous êtes dans une situation impossible, eh bien vous essayez de vous en sortir. Quand vous naissez quelque part, nous en France, on a ceux qui veulent remettre en cause le droit du sol. Eh bien, vous êtes d'ici. Vous n'avez pas choisi d'être né ici. Vous êtes né ici, vous avez les mêmes droits que les autres. Donc nous, on s'opposera toujours à ces idées racistes et xénophobes. Oui, l'extrême droite monte en ce moment. Ce n'est pas une fatalité. On peut dire qu'un autre monde est possible, je l'ai dit tout à l'heure, et que finalement, par exemple, nous, on dit qu'en France... Si vous adhérez à la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, c'est que vous êtes français. Il n'y a rien besoin d'autre. Ce n'est pas une histoire de couleur de peau, ce n'est pas une histoire de religion, ce n'est pas une histoire de prénom. Ça, c'est les autres qui racontent ça. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et moi, je suis sûr qu'au fond, une majeure partie des gens peuvent être d'accord avec cette idée-là. Mais encore faut-il oser l'affirmer. Vous me disiez tout à l'heure, pourquoi la gauche recule? Mais parce qu'elle n'ose plus être ce qu'elle est. Il faut qu'elle dise ce qu'elle pense vraiment et qu'elle essaie pas de plaire à ceux qui essaient de dire mais non, mais vous en faites un peu trop là-dessus, vous en faites un peu trop sur les immigrés, la Palestine, je ne sais quoi, mais on n'en fait pas du tout assez, même si on en faisait assez, on ne serait pas là où on en est. Voilà.
Justement, vous évoquez la Palestine.
Oui.
Un sujet cher à Jean-Luc Mélenchon, il faut le dire. Donc, on est à plus de 2 ans, je crois, 2 ans depuis le 7 octobre,
oui.
Plus de 50 000 morts. J'ai pas le chiffre du nombre de blessés, de déplacés, tellement il est énorme. Donc, c'est quoi la solution pour vous? Parce qu'on en a parlé, on en a discuté. Donc, c'est quoi la solution?
D'abord, faut arrêter de vendre des armes aux Israéliens Il faut arrêter de leur financer leur effort de guerre. Et moi, je dis ça d'autant plus qu'on est en Amérique du Nord, ici. Alors, on n'est pas aux États-Unis, on est au Québec. Mais s'il n'y avait pas les États-Unis d'Amérique pour financer la guerre de Netanyahou, il n'y aurait plus de génocide. Hein. Donc, à un moment, il va falloir le dire. Donc, les Américains, les États-Uniens plus précisément, on ne va pas commettre l'impair ici, doivent entendre qu'ils vont finir par être détestés du monde entier à force d'aller financer un criminel de guerre et un génocidaire. Et comme ils sont très sensibles à cet argument des dollars, parce que c'est que ça que M. Trump comprend, ils devraient commencer à se dire que s'ils continuent comme ça, il y a beaucoup de gens qui ne voudront plus du tout avoir affaire avec les États-Unis d'Amérique, qui ne voudront plus investir aux États-Unis d'Amérique, qui ne voudront plus acheter les produits américains. En plus, avec sa guerre commerciale stupide, il est en train de mettre finalement le bazar dans toutes les économies de la planète. Donc il faut qu'on résiste, il faut dire non.
France commence à faire à aller vers le bon chemin. Le président Emmanuel Macron a déclaré au Caire ou en Égypte la semaine dernière qu'il faut aller vers la reconnaissance d'un État palestinien.
C'est très important. La reconnaissance de l'État palestinien est peut-être la première chose à faire sur le plan diplomatique et international. Vous avez raison. Et ensuite, il faut dire que voilà, il y a une majorité d'êtres humains et de pays sur cette terre qui veulent qu'on arrête ce génocide et que ceux qui continuent à le financer à tout craint finiront par se retrouver isolés des autres. Et que c'est eux qui finiront par le payer un jour.
J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit, de ce que la France devrait faire, hein, ou bien pourrait faire pendant, au moment où les États-Unis vont rafler ici, rafler là-bas, à leur guise. Mais la France, aujourd'hui, semble être dans le camp des États-Unis face aux autres menaces de sécurité ailleurs. Et vous pensez qu'un jour, la France sera comme en 1900, en 2001, je pense, quand le président, c'est Jacques Chirac, je pense,
oui,
qui a dit non aux Américains, on ne les a pas suivis dans l'invasion de l'Irak. Aujourd'hui, la France semble pratiquement être l'accompagnatrice de États-Unis.
Pas la France, monsieur, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est l'accompagnateur des États-Unis d'Amérique. Les Français et la France ont une autre idée des choses. Jean-Luc Mélenchon dit exactement le contraire sur ce point précis en disant qu'effectivement, nous, la France, nous sommes une puissance non alignée. Nous ne sommes alignés ni sur les intérêts des États-Unis d'Amérique, ni sur ceux d'aucune autre grande puissance. Nous prenons une voie qui est la nôtre, qui est de travailler avec tout le monde pour faire entendre le message universel de la France qui a été toujours celui de la paix, des droits humains, et du refus, effectivement, des dominations et guerres en tout genre. Et je pense que le peuple français, dans son immense majorité, est comme ça. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ne sont pas dans notre famille politique qui défendent cela. Moi, vous savez, je suis un député français de la Commission des Affaires étrangères. Il y a 8 jours, on a auditionné l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, celui précisément qui a dit non à la guerre en Irak en 2003, vous venez de le rappeler, qui était le ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac. Eh bien, Dominique de Villepin ne dit pas autre chose que ce qu'on dit sur ce point-là. Alors, il y a d'autres choses où on n'est pas d'accord, mais là-dessus, il ne dit pas autre chose que ce qu'on dit. Donc la France, même dans des courants qui ne sont pas ceux que la France insoumise partage, comme la droite française, le gaullisme et autres, a des représentants et des gens qui finalement refusent cet alignement de la France sur les États-Unis d'Amérique. Et nous, nous le refusons catégoriquement à la France insoumise. Nous pensons qu'effectivement, il n'y a aucun intérêt à aller se mettre dans la roue de M. Trump, qui va essayer de nous engager dans différentes guerres à l'avenir. La prochaine fois, ça sera sûrement avec la Chine. Les Français ne seront pas dans ce conflit-là, et j'espère que les Québécois non plus. Et j'espère que le Canada entendra la voix du Québec, qui souvent fait entendre une voix quand même un peu différente.
Eh oui, on parlait de l'Afrique tout à l'heure avec Ismaël Mbonigaba. La France et l'Algérie. Un conflit qui dure depuis des mois se dégrade, les relations se dégradent. Beaucoup pointent du doigt le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qu'on accuse de vouloir ternir les relations entre les deux pays. Quelle est la proposition de la France insoumise par rapport à ça ?
D'abord, nous, on dit une chose simple. La guerre d'Algérie est terminée depuis 1962. Ceux qui essayent de la relancer sont des criminels, des irresponsables. Il y a 3,5 millions de Français algériens binationaux, hein, 3,5 millions. Il est absolument terrible de voir comment M. Retailleau, parce qu'il imagine sans doute que ça lui fera un avenir politique en France, s'en prend à l'Algérie alors que nous avons une coopération dans le domaine sécuritaire qui est essentielle. Nos amis algériens nous empêchent, et avec eux on travaille pour que le terrorisme soit un danger moindre. Nous avons une coopération dans les matières économiques, en matière de gaz et autres. Nous disons stop, il faut arrêter d'instrumentaliser effectivement la relation franco-algérienne pour des raisons de politique intérieure et il faut reprendre un dialogue franc, ouvert. Nous n'avons pas toujours été d'accord sur tout. Il faut d'abord dire qu'il y a eu effectivement la colonisation sur l'autre crime et que nous le reconnaissons et que nous sommes effectivement dans la relation avec l'Algérie sur quelque chose où nous ne pouvons pas passer ça sous silence. Et puis que voilà, nous avons encore une fois des gens qui vivent ensemble, qui sont binationaux, qui sont dans des mariages mixtes, qui sont... nous sommes deux pays qui sont extrêmement liés. Donc nous acceptons, non seulement nous l'acceptons, mais nous sommes très fiers de cela. Et il faut arrêter avec ce discours de division que M. Retailleau essaie de faire passer.
Parfait. Et le Sahel ?
Alors le Sahel, c'est plus difficile. il y a eu des erreurs importantes de commises. L'opération Barkhane n'aurait jamais dû durer 10 ans. Il y avait une demande de nos amis maliens au départ pour une intervention courte, rapide. Ça s'appelait l'opération Serval en 2013 avec M. Hollande. Nous avons soutenu cela, nous. Et puis nous avons dit ensuite, il faut partir. Hein, on n'est pas là pour... Et on est resté 10 ans. Pour faire quoi? On ne sait pas. Pour faire tourner les tanks français ou le matériel militaire français.
Les conflits sont toujours là actuellement. Les conflits, on voit ce qui se passe avec le Mali, la Zawad et tout le Sahel est vraiment en ébullition.
Oui, mais on aurait dû partir plus
tôt. Est-ce que la France pourrait, vous voyez, en tant que député de la France insoumise, est-ce que vous pensez que la France doit jouer un rôle là actuellement?
Oui, quand même, mais pas comme avant. C'est-à-dire que moi, je suis un grand partisan de réinventer la relation avec un certain nombre de pays africains. On parlait de francophonie tout à l'heure. Où est-ce que les gens parlent français aujourd'hui? C'est en Afrique. On a des liens historiques, on a des valeurs communes. Par exemple, le Sahel. Quand on coupe l'aide au développement et qu'on empêche les visas... parce qu'il y a des régimes qui ne nous plaisent pas là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On punit les peuples plutôt que de punir les dirigeants.
La montée de l'influence des Russes aussi, là-bas, le groupe Wagner est très présent actuellement.
Mais comment voulez-vous qu'on on dit au peuple, si vous allez être puni parce que vos dirigeants prennent des décisions contre le gouvernement français? Moi, je ne pense pas qu'il y ait de sentiment anti-français au Sahel. Je pense qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'ingérence du gouvernement français, qui veulent mettre fin à ce qu'on appelait la France-Afrique. Ils ont bien raison. Je suis d'accord avec eux. Mais par exemple, quand on coupe l'aide au développement, comme l'a fait M. Trump, nous, Français, dans les pays du Sahel, quand on empêche les visas, quand on empêche des gens qui ont de la famille... Écoutez, moi, je suis élu dans une ville qui s'appelle Cergy, dans le Val d'Oise. Il y a des tas de gens qui ont de la famille au Mali, qui ont de la famille au Burkina Faso. Les gens ne peuvent plus venir les voir. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Si vous voulez que, finalement, les peuples restent amis et qu'à un moment, les dirigeants puissent retrouver la voie du dialogue... Ne punissez pas les peuples. Vous pouvez... Moi, je n'ai aucune sympathie pour les juntes militaires au Sahel, hein, qu'on soit clair. Je n'ai aucune sympathie pour Wagner, ni aucun de ces gens-là. Mais je ne refuse qu'on punisse le peuple nigérien, le peuple malien ou le peuple burkinabé. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une fracture qui se crée. La France a commis énormément d'erreurs en Afrique. Je souhaite qu'on puisse revoir tout ça. Et à chaque fois qu'on va là-bas avec Jean-Luc Mélenchon, on a été à Dakar ensemble, on a nos amis du PASTEF au Sénégal qui ont gagné les élections, on a été au Congo, on a été ailleurs. Les gens nous disent « Vous ?» Aucun problème. C'est pas avec la France qu'on a un problème, c'est avec M. Macron.
Et puis, c'est toujours au sujet de l'Afrique. Au Congo, c'est la guerre. Vous savez, on ne parle pas même de guerre. On parle des génocides aussi.
Oui.
La communauté internationale a condamné le Rwanda dans cette affaire impliquée. Mais la France, on sait que la France est en bonne coopération avec le Rwanda.
Surtout des missions que le Rwanda effectue au nom de la France. Effectivement, des missions militaires.
Il y a en Mozambique, il y a aussi... on pense aussi que le Rwanda exploite le Congo à l'avantage de certaines puissances de l'Europe.
Oui, on est très clair, nous, là-dessus. Jean-Luc Mélenchon l'a dit hier au meeting de Québec solidaire. Il m'a fait l'amitié de citer mes propositions en matière de francophonie parce que je suis le rapporteur de cette question au sein de l'Assemblée nationale française. Est-ce que vous croyez que c'est normal que l'Organisation internationale de la francophonie soit dirigée par l'ancienne ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame ? Louise Mushikiwabo est rwandaise. Elle est l'ancienne ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame. Elle n'a pas dit un mot sur l'invasion du Congo par le Rwanda. Nous, on le dénonce avec force à la France insoumise. Nous croyons que la langue française peut être la langue de la paix. Nous croyons que cette langue commune peut être différente de l'anglais, par exemple, qui n'est pas une mauvaise langue, il ne s'agit pas de combattre l'anglais, mais qui a souvent été celle de l'impérialisme, du capitalisme le plus agressif. Nous pensons cela. Nous pensons aussi qu'il faut arrêter tout accord de défense avec le Rwanda, entre la France et le Rwanda. Nous pensons qu'il faut se tenir aux côtés du peuple congolais et nous essayons chaque jour de lui montrer notre solidarité. Moi, j'ai été encore, il y a 4 ou 5 jours, militer et avec des activistes pour dénoncer finalement le partenariat entre le Paris Saint-Germain, le club de football, et le Rwanda. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui est une honte. Il y a tout un tas de domaines comme ça où on pourrait finalement avancer. La prochaine conférence de la francophonie devrait se tenir à Kigali, au Rwanda. Ça aussi, c'est absolument honteux, nous le refusons. Nous, Insoumis, avons toujours dit, nous nous tenons aux côtés du peuple congolais, plus grand pays francophone au monde, et nous refusons que le Rwanda, qui a effectivement lui aussi connu des choses absolument tragiques dans le passé, qui a connu un génocide, personne ne remet ça en cause, puisse finalement se comporter comme un agresseur et annexer le Congo aujourd'hui, alors qu'on sait parfaitement que ce qui motive Kagame, c'est d'aller prendre les minerais. Et il faut aussi que l'Union européenne arrête d'acheter des minerais qui viennent du Rwanda. Il n'y a pas de minerais au Rwanda. Vous regardez une carte, il n'y a pas de minerais au Rwanda, ils viennent tous du Congo. Comment le Rwanda peut vendre des minerais? C'est parce qu'il les vole au Congo. On doit refuser de les acheter.
Pour clore ce chapitre géopolitique, beaucoup d'auditeurs m'ont écrit pour vous demander, suite à l'annonce de cette émission-là, la position de la France insoumise par rapport à l'Ukraine. Beaucoup disent qu'elle est un peu ambiguë, on ne comprend pas, est-ce qu'ils sont pour ou contre. Des fois, elle se rapproche
de l'Ukraine. Sans
donc, il faut les... Je leur ai promis pour poser
la raison. C'est une très bonne question. Non. Notre position est parfaitement claire. Nous avons toujours soutenu la solidarité avec le peuple ukrainien et dénoncé l'agression criminelle de Vladimir Poutine sur l'Ukraine. C'est absolument clair. Maintenant, ce que nous disons, cette guerre dure depuis bientôt 3 ans.
Trois ans et quelques deux mois comme ça.
Voilà.
Ouais, c'est ça.
1 million de morts à peu près, ou déplacés, blessés des deux côtés, parce qu'on n'oublie pas non plus les morts russes. Hein. Les soldats russes ne sont pas non plus très contents d'aller se faire tuer en Ukraine. La plupart d'entre eux ne veulent pas mener cette guerre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il ne faut pas à un moment réouvrir la voie du dialogue? Est-ce qu'il ne faut pas demander aux populations ce qu'elles veulent dans l'est de l'Ukraine, sous contrôle international, évidemment? Est-ce qu'il ne faut pas se dire que finalement, M. Poutine... avec son armée, de toute façon, on est bien obligé de discuter avec lui. On ne va pas pouvoir le renverser d'un coup. Ou alors quoi? Il faut aller faire la guerre contre M. Poutine. Il faut que toute l'Europe et la France s'engagent pour aller faire la guerre. Vous savez, c'est ce qui nous explique en ce moment les champions de la guerre. Pourquoi? Ça va profiter à qui, cette guerre? Pour que M. Trump pète la main sur les minerais? Pour qu'il continue de vendre avec le lobby militaro-industriel américain de l'armement partout dans le monde? Ça, les capitalistes en ont besoin, c'est sûr. L'économie de guerre, ça les intéresse. Il n'y a que comme ça qu'ils peuvent continuer à faire leur profit. Hein, c'est facile. Il y a une guerre, on vend des armes. Ensuite, tout est cassé, il faut tout reconstruire. On continue à faire des profits. Nous disons non. Tout vaut mieux que la guerre. Jean-Luc Mélenchon l'a dit hier. Tout vaut mieux que la guerre. Peut-être qu'il faudra faire des concessions. Peut-être qu'un dialogue arrivera. Et évidemment, le but est de protéger au maximum les Ukrainiens. Qu'il y aura certainement des territoires qui vont ne pas pouvoir être restitués immédiatement. Mais ensuite, le peuple ukrainien, si la paix revient, pourra se mobiliser, pourra se réorganiser, pourra faire entendre une autre voix. Si on continue avec cette guerre horrible, avec cette guerre terrible, qui fait chaque jour plus de morts, jusqu'où on arrivera demain? Peut-être que c'est l'Ukraine elle-même qui sera remise en cause. Nous prenons la voie de la raison, nous prenons la voie de la paix. Il faut faire taire les armes et puis trouver des solutions ensuite pour que les peuples puissent se faire entendre. Mais ça n'est pas en continuant finalement cette guerre sans fin et en faisant le jeu de ceux qui ont intérêt à vendre des armes et à ce que les canons continuent de parler que nous trouverons une solution pour les Ukrainiens. Nous sommes absolument solidaires du peuple ukrainien. Simplement, nous préférons la paix à la guerre, comme tout le monde, vous me direz. Sauf que certains, aujourd'hui, nous expliquent qu'en Europe, il va falloir aller faire la guerre à M. Poutine. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui serait finalement la première étape d'un désastre mondial comme on a pu en connaître il y a des décennies et qu'on ne veut absolument pas revoir sur le sol européen.
Bon, il y a une dernière question que j'aimerais poser au sujet, bien sûr, du thème d'obscurantisme.
Oui.
Jean-Luc Mélenchon, il dit que ça, c'est son cheval de bataille.
Oui.
Et je pense que c'est le même esprit au sein de la communauté insoumise. Est-ce que vous pensez que cette lutte est assimilable partout dans le monde? Est-ce que vous pensez que cet esprit va s'étendre sur le monde entier pour qu'un jour, au moins, on dise « Oh, enfin, nous avons de la paix ».
Je l'espère du fond du cœur, vous savez. Mais quand je vois que M. Trump arrête de financer les programmes de recherche, le soutien à la science. C'est ça que Jean-Luc Mélenchon a voulu dire. Rien ne va en ce moment. Monsieur Trump arrête de financer du côté états-unien la recherche. On a eu au moment de la crise du Covid sur la question des vaccins des gens qui finalement ont voulu commercialiser tout ça alors que la science, tout ce qui doit nous permettre de finalement proposer un avenir meilleur à l'humanité devrait être gratuit. Hein, la question des brevets, il est revenu dessus à la conférence McGill, est essentielle. C'est ça que veut dire Jean-Luc Mélenchon. Il y a aussi la question de la gratuité du savoir. Je sais que dans un contexte nord-américain, c'est peut-être un peu particulier, mais vous savez que nous, en France, on défend l'école gratuite, l'université gratuite. On arrive encore à faire cela. C'est comme ça qu'on lutte contre l'obscurantisme. C'est en disant la science est finalement ce qui nous permet d'élever l'humanité. L'éducation doit être accessible à tous. Tout ce qui permet de vivre mieux, de protéger notre santé, ne doit pas être soumis à des intérêts financiers. C'est cette lutte contre l'obscurantisme-là dont Jean-Luc Mélenchon parle et que le capitalisme le plus agressif et le plus obscurantisme refuse parce que pour eux, tout est bon pour faire des profits, y compris nos vies, nos santé, l'école, tout ce qui pourrait faire qu'on est dans une société meilleure.
Mais il y a aussi des remises en question sur les faits historiques qui sont manipulés par des régimes, surtout par l'Occident, vis-à-vis de l'Afrique, par exemple, vis-à-vis d'Haïti, comme nous avons dit au commencement. Est-ce que dans ce cadre-là, la réécriture de l'histoire même ne devrait pas être promue?
Ah si, moi je suis d'accord avec vous, si vous voulez me faire dire que il y a parfois des gens qui, plutôt que de s'attacher aux faits historiques, essayent de finalement promouvoir, on appelle ça en France le roman national, hein, vous savez, le roman national, la France a toujours été formidable, elle n'a jamais rien fait de mal, elle n'a jamais commis de crime, elle n'a jamais colonisé, elle a été finalement même source de progrès, de civilisation partout dans le monde. Alors tout n'est pas acheté évidemment, mais... quand même, il faut quand même être clair, en Algérie, ce qu'on a fait, c'est terrible. Il y a un journaliste français chez nous, Jean-Michel Apathy, qui a été un peu sanctionné parce qu'il a dit que finalement, en Algérie, il y a des orages sur glane, comme on a connu sur le sol français avec les nazis, il y en avait eu des centaines. Il a raison de dire ça, Jean-Michel Apathy. On ne peut pas ne pas regarder se passer en face. Moi, je suis pour qu'à l'école, en France, dans les programmes scolaires, on puisse dire la vérité à tous les enfants. Non, la France n'a pas été parfaite dans l'histoire, et notamment en Afrique et ailleurs. Elle a commis des crimes terribles. Il faut pouvoir l'admettre. Et ceux qui nient ça sont des menteurs et des criminels.
Je sais que vous repartez aujourd'hui en France, c'est ça?
Oui.
Avez-vous eu le temps de manger une poutine?
J'ai mangé une poutine et elle était excellente. Peut-être même que j'aurai le temps d'en manger une dernière avant de partir.
Aurélien Taché, merci, député de la France Insoumise, député européen.
Député français, moi.
Député français. Député européen, mais je suis député. Alors, merci de votre visite.
Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil. J'tire une coupe de pof de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleure mine. Yeah. Dans le Florida Turnpike, demain soir j't'aime mon mani. Non, trucker, c'est pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y'a tellement d'inégalités et de souffrances sur les visages. La question que j'me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Moi je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée sur emballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur la Interstate 95, partent fumer tous les rêves. Un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort. Chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Un autre truck stop d'autoroute, pogné pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, y'a plus tellement d'amour, yeah. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient déclencher une fusillade. La question que je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Que moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays, yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi pis les deux filles, et j'ai ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game. C'est si triste que des fois, quand je suis loin de la maison, assis dans mon vieux camion, j'ai toute l'Amérique qui pleure quelque part au fond du cœur.
Yerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Yerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Yaoyami, aikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Yaoyami, aikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze.
Qu'on se le dise, le travail que fait l'association Solidarité Akinoise est un succès. Tout le monde en parle. L'ensemble a quand même ses papas, les tout petits mouns contents. Alors, en cas de rendez-vous, avec mouns nous connaît, mouns nous pas connaît, pour nous poter solidarité, pour nous bien manger, nous commençons à passer. Bon petit manger, sous le jour, mon chocolat à la caille. N'oubliez pas, dimanche 27 avril, salle Plaza Vogue, 4371 boulevard des Grandes Prairies à Saint-Léonard. Admission 70$ pour les adultes et enfants de 3 à 10 ans, 35$. Pour réservation, contactez Gina Jean au 438-994-8089. La mission n'a pas changé, c'est d'envoyer plus d'enfants à l'école. Merci pour votre collaboration. Les enfants de Gros Sky ont besoin de vous. Dimanche 27 avril, nous cassez rendez-vous, oui, n'est-ce pas?
Dans un marché de l'immobilier en constante mutation, rien ni personne ne bat le courtier Brady Donisson. Lorsqu'une transaction immobilière doit être faite, bien faite et parfaite, Brady Donisson de l'agence immobilière Remax, c'est le nom qu'il faut avoir en tête. Brady Donisson, c'est plus de 36 ans d'expérience, un listing impressionnant. Ceux et celles qui veulent vraiment vendre ont grand intérêt à faire affaire avec lui, car il possède en immobilier des connaissances en téflon qui génèrent ses compétences, qui inspirent votre confiance. Le courtier Brady Donisson et l'agence immobilière Remax, c'est la combinaison gagnante. Une vérité que rien ne peut égaler. 514-984-1474.
Bingo, bingo, Radio Centre-Ville. À partir de janvier 2025, Radio Centre-Ville fait des heureux à travers son bingo. Chaque samedi, de 18h à 20h, participez et gagnez. Plus de 3 500$ de prix par semaine. Jouez entre amis, jouez en famille et continuez à supporter la voix des sans-voix. Votre radio communautaire et multilingue. Radio Centre-Ville.
102.3 FM.
Au top du palmarès qualité, Tout savoir sur l'immigration. L'émission Tout savoir sur l'immigration présentée par François Jean-Denis, consultant canadien accrédité dans ce domaine, s'installe à l'antenne de Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, tous les samedis entre 7h et 8h du matin. Désormais, à compter de ce samedi, l'émission Tout savoir sur l'immigration, c'est votre rendez-vous sur les ondes du 102.3 FM.